RFI, grand reportage, Laurence Adou.
RFI vous propose de revenir sur une figure polémique de la politique africaine de la France. Je veux parler de Jacques Foccart, l'ancien Monsieur Afrique des présidents De Gaulle et Pompidou. Après un très long dépouillement, les archives nationales françaises publient l'inventaire du fonds qu'il a laissé, le fonds Foccart. L'occasion pour nous de revenir aujourd'hui et demain sur cet homme, ses réseaux et son action dans les années 60. Réseau Foccart, ce que disent les archives, c'est le premier des deux volets de ce reportage. Reportage présenté par Laurent Corot que l'on retrouve dans un quart d'heure pour en parler.
Pierre Schitt en banlieue parisienne, archives nationales, dans le dédale des magasins. Une main, un badge. La porte s'ouvre sur l'un des lieux où dorment les secrets de la République. Jean-Pierre Bas, conservateur du fonds Foccart, notre guide dans cette visite.
Nous sommes ici à l'entrée du magasin 501, où est conservé le fonds Foccart aux Archives Nationales. L'espace est totalement sécurisé, on y entre avec des accréditations et seuls les agents qui ont été préalablement autorisés peuvent pénétrer dans ces dépôts.
Les boîtes à archives Cochard, gris-noir, opaques, sont alignées sur de grandes étagères mobiles en métal.
Donc le fond commence à cette travée et va se poursuivre sur 400 mètres linéaires jusqu'ici. Prenons par exemple un objet un peu original dans le fond, le fichier dit fichier vert, c'est-à-dire des boîtes avec des petits fermoirs comme on voit dans les films policiers, des boîtes qui conservent toutes les fiches de correspondance adressée à Jacques Foccart, avec le nom du correspondant, l'objet de leur requête, naturellement la date. On trouve aussi bien des lettres de recommandation de personnes habitant en Afrique, de demandes de promotion de Légion d'honneur, naturellement camouflées, ou bien tout simplement, ça n'apparaît pas directement, mais en fouillant dans les archives, on le découvre, des propositions de coup d'État. La suite, l'explication, se trouve dans ces cartons intéressant la République du Congo, la République du Congo-Brazzaville, qui sont devant nous. Par rapport au coup d'État, nous trouvons un rapport proposant un projet de retour de Fulbert Youlou avec en premier lieu une action psychologique, c'est-à-dire travailler à la popularité de Youlou auprès des Congolais. Deuxièmement, un mode opératoire, c'est-à-dire préparer un calendrier de retour de Fulbert Youlou de manière plus concrète. La proposition vient d'un agent des services secrets français à qui il est demandé de prendre sur sa responsabilité individuelle l'initiative de cette opération.
Jacques Foccart, ces centaines de mètres d'archives dessinent le portrait d'un homme, de ses méthodes, de son équipe. Elles jettent une toute nouvelle lumière sur les circuits empruntés pour élaborer la politique africaine de la France. Et pour comprendre cette histoire, il faut d'abord revenir à la Seconde Guerre mondiale.
Jacques Foccart est un ancien résistant. Il dira lui-même qu'il a été forgé par la guerre et que c'est un homme du renseignement. Et lorsque De Gaulle crée le RPF, à la fin des années 40, Foccart est rapidement nommé responsable des affaires africaines pour l'organisation gaulliste. Et lorsque, en mai 58, De Gaulle accède au pouvoir, il amène avec lui, à Matignon puis à l'Élysée, Jacques Foccart comme Monsieur Afrique. Il lui conférera, parce que c'est un collaborateur en qui il a grande confiance, il lui conférera également le renseignement, l'outre-mer et la relation avec les organisations gaullistes.
Première mission, transformer la nature juridique des liens entre la métropole et ses colonies. Ce sera le projet de communauté, un projet qui sera intégré à la nouvelle constitution et que Charles de Gaulle explique à la foule à Brazzaville le 24 août 1958, un mois environ avant le référendum.
Quel est le projet qui va être soumis au choix libre et conscient de tous ? C'est celui de la communauté. Ce qui est proposé, c'est que la métropole et les territoires forment ensemble une communauté dans laquelle, je le répète, chacun aura le gouvernement libre et entier de lui-même.
Le gouvernement libre et entier de l'Afrique par elle-même n'est pourtant pas la seule préoccupation des responsables français à l'époque. Jean-Pierre Bas.
Le rôle de Foccart est de réussir la décolonisation de l'Afrique. Il s'agit de conserver une influence française dans des anciennes colonies. Deux options sont à l'étude, soit la balkanisation, chaque colonie devient un État indépendant, soit au contraire un regroupement de plusieurs territoires coloniaux au sein d'un État fédéral. Foccart préfère la balkanisation parce que ça lui permet de créer autant de sas sécurisés et directs avec Paris pour autant d'États. Il va pousser pour cette option auprès de Gaulle et auprès de Fouette-Boigny, L'arbitrage est fait dans le secret du cabinet entre De Gaulle, Foccart et naturellement les ministres qui sont conseillers. Je pense aux quatre ministres africains. En août 1958, c'est-à-dire avant le référendum.
Foccart défend l'option d'une Afrique balkanisée et obtient gain de cause. Quelques années avant sa mort, dans une interview à RFI, il avait cherché à s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il avait écarté l'idée des fédérations.
On pensait que les ensembles trop importants, trop gros, étaient plus fragiles. C'est étonnant, mais enfin c'était notre analyse. C'était très difficile, les regroupements étaient très difficiles, parce qu'il y avait les inimitiés ethniques. Et quand on voit sur place ce que ça représente, les hostilités de telle ou telle population, on s'aperçoit que c'est pas possible.
Dis-moi oui ou non, mais si c'est oui, c'est vraiment très bon.
Le oui l'emporte au référendum de 58 dans la plupart des anciennes colonies. Les gaullistes décident que l'Afrique de la communauté française, puis celle des nouveaux États indépendants, ne suivront pas les circuits diplomatiques classiques. Les relations avec les pays concernés seront gérées directement au niveau de la présidence française. Jean-Pierre Bas, conservateur du Fonds Foccart.
L'idée de Foccart, c'est que l'Afrique, il l'écrit dans une note, n'est plus la France, mais pas tout à fait l'étranger. En d'autres termes, c'est un espace entre les deux, un espace francophone. Pour que fonctionne cet ensemble, ce n'est plus à l'échelon ministériel que doit être menée la politique, mais directement à la main droite de De Gaulle à l'Élysée, au sein de la cellule Afrique que dirige Jacques Foccart.
Principal conseiller du général de Gaulle sur la politique africaine, Foccart est entouré d'une équipe importante de collaborateurs qui est longtemps restée dans l'ombre et que le fonds Foccart des Archives nationales permet de mieux cerner. Des collaborateurs regroupés à l'hôtel de Noirmoutier. Jean-Pierre Bas.
Le secrétaire général de la communauté, qui devient secrétaire général des affaires africaines et malgaches en 1961, est installé à l'hôtel de Noirmoutier, rue de Grenelle. Il a son parc automobile, son protocole, son système de réception. Le 14 juillet, franco-africain est anticipé dans les jardins de Noirmoutier. On sait que c'est là qu'on va solliciter Jacques Foccart. Et à la haute époque, en 1960, c'est 100 agents qui relèvent de l'autorité du secrétaire général des affaires africaines. Le secrétaire général de Foccart centralise tout ce qui est rédigé, produit par les administrations françaises, de préférence sur le terrain, dans le même dossier pour un suivi de pays, par exemple la Côte d'Ivoire en 1964. On a les bulletins du SDEC, les bulletins du deuxième bureau, les télégrammes diplomatiques, les rapports faits en administration centrale à Paris, les rapports des missions d'aide et de coopération, et parfois même, c'est une des richesses du fonds totalement inédite, les correspondances manuscrites personnelles que les ambassadeurs envoient en marge des dépêches diplomatiques directement à Foccart.
Parallèlement à ses collaborateurs officiels, Jacques Foccart s'appuie sur un réseau plus secret, jusqu'à la limite de la légalité républicaine.
Parallèlement à cette structure formelle, institutionnelle, il existe ce que Jacques Foccart appelle lui-même des circuits courts. Jacques Foccart prépositionne auprès de certains chefs d'État amis de la France influents en Afrique des collaborateurs qui deviennent leurs conseillers politiques et doivent assurer la navette entre Paris et, souvent, Brazzaville et Abidjan. Par la suite, ce sera Libreville. Qui sont ces personnages ? Eh bien, le premier d'entre eux est Jean-Maurice Chaubeaupré, qui est un ancien résistant, activiste à la veille de la prise du pouvoir du général de Gaulle et qui cherche à se recycler dans les actions de renseignement au bénéfice de Foccart. Il va être envoyé auprès de l'abbé Youlou entre 1960 et 1963 à Brazzaville. Et nous nous attachons à ses pas pour une raison simple, c'est que lui va théoriser, formaliser la constitution de ce circuit court qu'il appelle lui-même la petite équipe. Alors là, on est dans des réseaux tout à fait officieux, mais qui toutefois sont plus ou moins couverts par des contrats de coopération qui sont sollicités par des chefs d'État africains. On est à la marge entre l'initiative individuelle et l'initiative politique. Et c'est cet entre-nous qui constitue l'ambiance de ce que l'histoire a retenu sous le nom des réseaux Foccart.
Réseau, un mot que Jacques Foccart rejetait notamment dans cette interview sur RFI.
C'est peut-être l'occasion de mettre un point final à ce qu'on appelle les réseaux Foccart. Je déclare formellement, et je demande à quiconque peut me prouver le contraire de venir me trouver et me le dire, jamais il y a eu un réseau au sens d'un réseau organisé structuré pour mener une action politique. Les réseaux, ce qu'on appelait les réseaux Foccart, c'était les relations que j'avais avec tel fonctionnaire, tel homme d'État, tel ministre, tel ecclésiastique également. Et de cet ensemble, j'avais une opinion, mais c'était pas un réseau.
Au cœur de ce réseau Focard figure un homme qui gère avec lui la politique africaine de la France et qui sait l'orienter suivant les intérêts de son propre pays. Félix Houphouët-Boigny, le président ivoirien. Un chef d'État qui affirme en juin 61 la nécessité d'une coopération confiante de l'Afrique avec ceux qui partageraient ses idéaux d'égalité et de fraternité. La référence à la France est presque explicite.
L'Afrique se doit de rechercher sa voie dans une neutralité qui ne signifierait pas isolement, mais la paix entre ses enfants et une coopération confiante avec tous les peuples qui, n'ayant aucune vocation à la domination mondiale, l'aiderait pour elle-même et ne l'utiliserait pas des fins personnelles. Une coopération confiante avec des peuples animés comme elle, de l'idéal élevé d'égalité et de fraternité.
La place de Félix Houphouët-Boigny est centrale parce qu'il tisse le principal réseau de chefs d'État amis de la France à travers le réseau du RDA, le Rassemblement démocratique africain. Il va être le grand frère de tous les chefs d'État qui vont naître sous son ombre. D'ailleurs, l'équipe, la petite équipe de Jean-Maurice Chaubeaupré ne s'y trompe pas, puisque ce dernier le surnomme Big Brother pour décrire son influence sur toute la géopolitique d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Et dans cette logique, Big Father n'est autre, dans les notes de Maurice Chaubeaupré, que le général de Gaulle. C'est-à-dire, si l'on pousse un peu plus loin le raisonnement, que Houphouët co-gère avec Focard la politique africaine de la France. Il impulse certaines orientations. Par exemple, il pense que l'implosion géopolitique du Nigeria est un atout pour la Côte d'Ivoire. C'est ce qui justifie en grande partie le soutien que la France apportera au colonel Ojukwu au Biafra entre 1967 et 1970 pour la sécession biafraise.
Focard ne s'appuie pas que sur son administration et ses réseaux personnels. Pour mieux utiliser les moyens des services français, il fait en sorte d'avoir un homme de confiance, Maurice Robert, à la tête de la toute nouvelle section Afrique du SDES, le service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Il établit avec lui une relation de travail direct.
La place des services est centrale, pour une raison simple et évidente, c'est qu'il s'agit avant tout de sécuriser, de protéger le précaré. Et dès 1958, c'est-à-dire depuis Dakar, un certain capitaine Robert, Maurice Robert, est à la manœuvre pour sécuriser le vote en Afrique occidentale française en faveur du oui. Il écrit d'ailleurs de longs rapports à Jacques Focard, des rapports manuscrits, officieux, qui ne transitent pas par la centrale du SDEC, dans lesquels il lui décrit le paysage politique et lui dit tout ce que l'on pourrait continuer à faire par-delà l'indépendance. Maurice Robert parviendra avec l'appui de Focard à se faire nommer chef du tout nouveau secteur Afrique que crée en 1960 le service de renseignement français, le SDEC. L'idée de Robert est simple, installer un représentant du service auprès de chaque président africain avec un contact direct avec chaque présidence africaine. Focard a même obtenu que le directeur général des services secrets délègue à Maurice Robert le droit de discuter directement avec lui. En prise directe, que ce soit en vis-à-vis ou par téléphone, Jacques Focard et Maurice Robert peuvent donc traiter des affaires africaines dans l'immédiateté.
La politique de la France dans cette Afrique post-indépendance utilise un dernier levier d'action, les mercenaires. Focard les utilise, au mépris des règles, pour pouvoir agir au-delà des limites de la diplomatie républicaine.
Pour Focard, officiellement, les mercenaires n'ont pas de place. Dans les faits, il sait très bien qu'il leur attribue un espace spécifique qui consiste à être une force de frappe non relié officiellement à la France et qui lui permet d'avoir une sorte de droit de regard, d'ingérence ou d'action militaire dans des territoires en crise. C'est la raison pour laquelle les mercenaires vont d'abord se développer au Congo sous la houlette de Bob Denard. Lorsque l'armée française ne peut pas intervenir, on aura facilement recours à des mercenaires qui pourront assumer une part totale d'illégalisme d'État. Et ils seront des soldats de ce dispositif général de la lutte anticommuniste voulue par la France en Afrique dans le cadre de la guerre froide.
En 1974, l'échec à la présidentielle du candidat gaulliste Jacques Chaban-Delmas et l'élection de Valéry Giscard d'Estaing provoquent une véritable tempête dans le marigot franco-africain. Le secrétariat général des affaires africaines et malgaches est dissous. Giscard se choisit un nouveau conseiller, René Journiac. Mais l'Afrique continue à occuper une place à part, gérée par la présidence. Certains grands principes de la politique focartienne sont maintenus, comme l'imposition d'une paix française en Afrique. Focart, lui, continuera à être sollicité par les chefs d'État africains. Jacques Chirac en fait son conseiller à Matignon, puis conseiller présidentiel lors de son élection en 1995. L'homme de l'ombre décède en 1997. Réseau Focart, ce que disent les archives, un reportage de Laurent Corot, réalisé par Marc Minatel.
Laurent Corot, bonjour.
Bonjour.
Vous signez ce grand reportage consacré aux méthodes de Jacques Focart et à ses réseaux. On voit prendre vie, finalement, une administration assez méconnue, celle du secrétariat des affaires africaines et malgaches.
Ouais, c'est la partie officielle de la structure qui permet à Jacques Focart de se renseigner sur ce qui se passe en Afrique et d'agir également. Le secrétariat général des affaires africaines et malgaches est créé en 1959, mais en fait, Focart ne l'occupe, lui, qu'à partir de 1960. Et pour reprendre l'expression d'un historien qui a travaillé sur le sujet, eh bien, ce secrétariat général, ce sont les yeux et les oreilles du président français sur ce qui se passe en Afrique, mais il sert aussi d'intermédiaire entre le président et ses homologues africains. Alors on l'a entendu dans le reportage, ce secrétariat général à son plus haut fera travailler une centaine de personnes et c'est en partie grâce à son activité que Focart prépare l'entretien quotidien de 19h avec De Gaulle. Il reçoit alors des notes de différents chargés de mission qui sont synthétisées par quelqu'un avec qui il travaille, son conseiller technique et qui permet donc de produire un document qui va nourrir cet entretien avec Charles de Gaulle.
Alors Laurent, cette administration, c'est donc ce qu'on pourrait appeler la partie émergée du travail de Jacques Focart. Mais il y a donc aussi tous ces contacts hors système, comme on dit, et sur eux aussi les archives permettent d'en savoir davantage.
Oui, alors il y a notamment Jean Morichaud-Beaupré, dont le nom apparaît dans ce reportage. Morichaud résume à lui seul la partie obscure de la méthode Focart. Il commence par être chargé de mission au secrétariat général des affaires africaines et malgaches, qui s'appelle alors secrétariat général de la communauté. Et puis très vite, il propose que la France soutienne le sécessionniste congolais du Congo-Kinshasa, Maurice Tshombe, en passant notamment par des mercenaires pour que l'image de la France n'en soit pas affectée. Il est envoyé pour cela à Brazzaville, d'où il va piloter le soutien au Katangais. C'est un peu le lieu d'ailleurs où il va expérimenter sa méthode, Jean-Morichaud-Beaupré. Il est ensuite envoyé en Côte d'Ivoire, où il devient conseiller d'Oufouette-Boigny. Il va notamment être, depuis Abidjan, la cheville ouvrière du soutien de la France aux séparatistes biafrais du général Ojukwu.
Alors dans l'équipe de Focart, il y a aussi un agent secret dahoméen, aujourd'hui le Bénin, ouais. Eh bien, c'est Antoine Azoumé qui va décéder dans des circonstances obscures.
Et les connexions d'Azoumé sont extrêmement intéressantes parce qu'il sert à la fois la politique du RDA, le parti dirigé par Oufouette-Boigny, mais aussi le SDES, le service de documentation extérieure et de contre-espionnage, les services français, ainsi que Jacques Focart lui-même, bien évidemment. Il va mourir de manière très étrange en 1966. Ses supérieurs au sein des services secrets seront persuadés qu'il a été empoisonné.
Alors finalement, Laurent Corot, que nous montre cette plongée dans les archives de Jacques Focart sur ses méthodes?
Alors, on savait beaucoup de choses de la politique de la France en Afrique dans les années 60. Toutes ces histoires sulfureuses qui émergent de ses archives, la diplomatie parallèle, les livraisons d'armes, les interventions en Afrique, tout cela, ça n'est pas une découverte. Mais, si vous voulez, les archives permettent de raconter ces épisodes du Katanga, du Biafra, du Gabon, du Tchad et de Guinée avec une grande précision. L'autre intérêt d'ailleurs du fonds Focart, c'est que il permet d'aller au-delà de l'homme Focart et de se pencher sur les différents acteurs qui ont fait la politique africaine de la France à cette époque. Il place, en quelque sorte, pourrait-on dire, en pleine lumière, la nébuleuse qui entourait Jacques Focart, l'un des hommes les plus puissants de la Ve République. Ces questions seront en tout cas au centre des deux journées d'études organisées par les Archives nationales et la Sorbonne, aujourd'hui et demain.
Et justement, puisqu'on parle de demain, on se dit
à demain.
Et d'ici là, à réécouter sur RFI.fr. C'était Laurent Corot. Merci beaucoup.
Tous les jours, Accent d'Europe vous